Il est 20h et ce soir, de la pelouse de Reuilly au Bois de Boulogne, hommage à un patrimoine queer ancestral, à un héritage qui continue d'échapper à tout encadrement, à toute loi et à presque toute répression. Le sexe en plein air ou cruising pour les intimes. Figurez-vous que le journal Le Parisien a publié un guide pour savoir où aller copuler joyeusement à Paris sans trop craindre d'être arrêté pour exhibitionnisme. Le journal rapporte en effet qu'entre 2018 et 2024, le Bois de Vincennes a été le théâtre que de 7 verbalisations, une par an. Pour le commandant de police interrogé par le journal, ce phénomène n'est, je cite, « pas une priorité ». Hommage donc ce soir à ces espaces de liberté durement conquis, mais fragiles. À l'hiver 2024, les haies du labyrinthe des Tuileries ont été ratiboisées à l'approche des Jeux Olympiques, donnant un gros coup à ce bésodrome queer à ciel ouvert, un scandale. Le journal Tétu nous emmène à Dijon, aux abords sulfureux du lac Kyr. Cela fait des décennies qu'on s'y cache dans les bosquets pour faire l'amour, et pourtant ces pratiques y vivent peut-être leurs derniers instants. Si avec l'afflux des Parisiens après le Covid, Dijon a revêtu ses habits les plus gay-friendly, la violence anti-LGBT semble avoir augmenté. Pour les habitués du lac Kyr, les agressions ne sont pas forcément plus récurrentes, mais la violence est plus intense. L'adjoint chargé de la lutte contre les discriminations à Dijon invite les victimes à porter plainte, je cite « Plus il y a de procédures, mieux les forces de l'ordre peuvent recenser les lieux des agressions pour y faire davantage de rondes », à supposer qu'on ait envie d'aller s'envoyer en l'air au milieu des patrouilles de police. Alors selon les habitués de ces espaces, à Paris comme à Dijon, on croise dans ces lieux de cruising des gens qui ne sont pas sur les applis. On croise de toutes les classes sociales, tous les corps, tous les âges. On croise des PD revendiqués, des hommes plus discrets, des gens qui viennent parfois de loin, de là où Grindr n'a parfois pas grand-chose à proposer, de la banlieue, de la campagne, des zones pavillonnaires et parfois aussi de la honte. Alors, quelle alternative quand nos espaces disparaissent ? Je vous parlerai bien des saunas, mais eux aussi sont en grande difficulté depuis le Covid puis l'épidémie de Monkeypox et leurs prix d'entrée peuvent être assez dissuasifs, il faut le dire. Faut-il alors retourner à nos applis de rencontre ? Eh bien, toujours dans Le Parisien, on lit hier que l'entreprise VPN Surfshark a établi un classement des applications de rencontre qui récoltent et vendent le plus de données personnelles de leurs usagers. À la première place, Grindr. Pardon, mais est-ce qu'on pourrait nous laisser baiser en paix ? Allez, mesdames, messieurs, toutes les personnes entre et au-delà, désactivez la géolocalisation. On est ensemble jusqu'à 21h, soyez les bienvenus.
Salut le lobby, ça va le lobby ?
Assez de société qui ne respecte pas les sensibilités.
5 syllabes, visibilité.
S'il vous plaît, je suis lesbienne.
Les questions LGBT sont pas des questions à part.
C'est parce que je pense pas que ce soit qu'une affaire privée. En fait.
Je pense que la parole doit être surtout donnée aux personnes concernées.
Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Les petits, les hommes sont dans la rue.
Ça n'a pas de rapport, mais je suis un tout petit peu hétérophobe.
On est des bad bitches.
Enfin, pardon, je parle mal là, mais...
Je raisonne jamais en termes d'espoir. Je raisonne en termes de ce qu'on peut agir.
Le lobby, Radio Campus Paris.
Allez, on est parti. Une dernière fois cet été pour une heure de radio par et pour les queers et celles qui se cherchent encore avec, comme chaque semaine, une fière équipe. Maïel, Ayelen, Zoé et Alexis sont à la table du lobby. Bonsoir à vous quatre.
Salut.
Maïel, ça fait très plaisir de te retrouver.
Écoute, je suis ravie d'être là. J'étais à l'article de la mort de ne plus pouvoir venir faire les émissions.
On t'a manqué, évidemment.
Beaucoup.
Tu es obligée de dire ça de toute façon. C'est aussi le grand retour d'Ayelen. Salut.
Salut. Oui, je suis revenue exclusivement pour vous.
Et en plus, tu reviens de Arles. Tu as sauté du train. Et te voilà dans le studio de Radio Campus Paris. Zoé est avec nous aussi, salut.
Salut.
Alors la dernière fois que tu es venue dans ce studio, tu t'en es pris au bouquin de Panayotis Pasco et ce soir on parle encore de livres, mais en des termes plus élogieux, je crois.
Tout à fait, je vais vous parler de l'autrice argentine Mariana Enriquez.
Voilà, à voir en fin d'émission. Et puis Alexis ne se lasse toujours pas de passer son été avec nous et on en est ravis. Comment ça va ?
Ben moi aussi, écoute, ça va très bien.
Qu'est-ce que tu nous racontes ce soir ?
Je vais vous parler de la manière dont on capitalise un petit peu trop sur nos existences queer.
Ok, c'est mystérieux, mais on a hâte de découvrir ça à mi-chemin. Et puis jusqu'à 21h, comme toutes les semaines, vous connaissez le principe, deux stars sont avec nous et nos stars du soir se retrouvent autour de la scène Ballroom. Le premier est le phaseur de l'iconique House of Revlon, l'un des plus grands ambassadeurs du français du voguing, les Revlon qui sont au cœur d'une série Ballroom réalisée par notre deuxième invité et à voir très bientôt sur France TV/. Vous l'aurez compris, Vinnie Revlon et Amandine Guest sont nos invités.
Le lobby, Radio Campus Paris.
C'est l'été, ça veut dire que c'est le moment de développer un crush obsessionnel sur une belle bouche ou un joli bear. Voici Liv Delestal pour ouvrir cette dernière émission estivale.
Je peux pas te sortir de ma tête, baby c'est love, je ne peux pas m'en passer. Non, je peux pas te sortir de ma tête, I'm obsessed, je ne peux pas m'en passer. Non, je peux pas te sortir de ma tête, j'ai le cœur droit, moi quand tu t'arraches de la teuf. Non, je peux pas.
sortir de ma tête. Bébé, c'est love, je ne peux pas m'en passer. Non, je peux pas te sortir de ma tête. I'm obsessed, je ne peux pas m'en passer.
Et bonsoir Vini Revlon.
Bonsoir.
Et bonsoir Amandine Gay.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Ballroom, c'est donc la série que tu réalises, Amandine, et que tu consacres à la scène ballroom parisienne et plus particulièrement à leurs plus grands émissaires, si je puis dire, la House of Revlon, dont tu es le father, Vini. Série à découvrir à partir de la semaine prochaine sur France TV Slash. On va peut-être commencer par resituer un petit peu ce qu'est la House of Revlon, parce qu'il faut bien comprendre que c'est une house internationale. Toi, tu es le father international de cette house.
That's right.
Avec des succursales. Je crois que Keyona, dans la série, la mother de la House of Revlon, parle de, en ces termes partout dans le monde. C'est une maison créée en 89.
C'est ça.
Par Tony Revlon aux États-Unis. Tu nous racontes un petit peu l'histoire.
Bah, c'est ça, c'est une, en fait déjà une house, c'est une famille choisie par la communauté LGBTQIA+. Le monde ballroom, c'est un monde qui a été créé par eux aussi, aux États-Unis. Il faut bien situer ça. Mmh. Et les noms des houses sont des noms de marques ou de cosmétiques. Parce qu'à l'époque, voilà, c'était un peu un rêve d'appartenir à ces maisons, de travailler avec ces maisons. Et donc nous, c'est Revlon. Moi, je suis le premier Revlon à l'international. Et on m'a donné le pouvoir de recruter. Mmh. Et du coup, j'ai recruté à Paris, j'ai recruté en France, puis j'ai recruté à l'international. Et aujourd'hui, on est un empire.
Et toi, comment tu te retrouves à la tête de cette house, finalement? C'est quoi ton parcours?
Déjà, moi, je suis Capricorne. Ensuite, je suis Congolais.
T'es Capricorne aussi?
That's right, bitch.
Je suis la tête de ma house, à moi aussi.
Donc voilà, je suis Capricorne, je suis Congolais. Et donc, ça, je situe bien. Être leader, c'est soit tu l'es, soit tu l'es pas. C'est inné, tu vois. Mais en recrutant, tu vois, mes kids, en recrutant des personnes dans ma house, moi-même, ça m'a formé à prendre le temps d'écouter les gens, à prendre le temps de comprendre, à prendre le temps de me remettre en question aussi. Et donc, du coup, en recrutant énormément de monde dans le monde, la patience, il la faut. Et donc, du coup.
T'as woke aussi beaucoup et t'as gagné beaucoup.
Oui, en effet. Et j'ai dû faire mes preuves aussi, bien évidemment. Hein, parce que recruter, c'est une chose, mais il faut compétir, il faut participer au bowl. Et donc, du coup, j'ai participé à des bowls en France, puis en Europe. Et puis après, je me suis dit, bon, il est temps d'aller aux États-Unis et batteler ceux qui ont créé. Et puis, j'ai gagné. Et puis, Paris a été mis en lumière aussi.
Bravo.
Voilà.
Si tu recrutes, c'est que moi je veux rejoindre la House of Revlon demain. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des auditions? Comment ça se déroule le process?
All right, baby. So,
les candidatures
sont ouvertes.
Attention.
Non, en fait, pour rejoindre la house, déjà c'est une question d'énergie, c'est une question de feeling. Est-ce que toi tu peux matcher avec les personnes qui sont déjà là, tu vois? Avant de parler de talent, on va parler vraiment d'énergie et de symbiose. Tu vois, c'est vraiment important. Je suis très, très sur l'énergie. Ensuite, qu'est-ce que tu peux rapporter à la house en termes de catégorie? Parce que dans la ballroom scene, il y a plein, dans les balls, qui sont les espaces de compétition pour la communauté LGBTQIA+, qui sont dans la ballroom scene. La ballroom scene, c'est le monde. Donc, les balls, c'est l'espace de compétition. Donc, toi, quelle catégorie tu vas faire? Tu vois, qu'est-ce que tu veux apporter à la house? et qu'est-ce que nous, on peut t'apporter. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent rejoindre la House of Revlon juste pour la fame, mm-hmm. en mode, ah, c'est populaire, ah, il passe à la télé. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que tu apportes ? Donc, c'est ça aussi qu'on va creuser. Et puis, ensuite, je vais transformer la pierre en diamant. Voilà.
Alors, tu as commencé à parler de compétition, tu as commencé à parler de catégories. On va aussi un petit peu essayer de détailler voilà, comment ça marche. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'il voilà, y a des matchs ? Est-ce que c'est des maisons qui s'affrontent entre elles ? Explique-nous un petit peu comment ça marche.
Alors, dans un bowl, ouais. un bowl, c'est vraiment l'espace de célébration, mais surtout l'espace de compétition. Mm-hmm. Dans un bowl, il y a un jury, un DJ, un maître de cérémonie et le public. Ensuite, il y a les participants. Les participants, c'est les membres de la scène active de la ballroom. Dans la ballroom scene, il y a plusieurs houses. Donc, en effet, c'est une compétition entre houses. Moi, je suis le père de la maison Revlon, mais il y a Ebony, il y a Gucci Brown, il y a Gorgeous Gucci, et j'en passe, tu vois. Et le but, bah, en fait, c'est que ta house, elle rapporte le plus de trophées. Mmh. Et donc, du coup, bah, c'est des battles de danse, comme des battles de catwalk, comme des battles sur... la mode, il y a plusieurs catégories et la beauté de la ballroom scene, c'est que chacun peut trouver chaussure à son pied.
Amandine, la série Ballroom, elle est tournée selon des codes auxquels on n'est peut-être pas forcément habitué en France et notamment de la part de France TV Slash, tu vas peut-être pouvoir nous le décrire. On se disait avec Maëlle tout à l'heure, en vrai on a l'impression d'avoir vu un peu une télé-réalité.
Ah ouais, carrément. Vous allez un peu loin, je
On
pense.
On va peut-être un petit peu loin. Mais effectivement, il y a ce côté, il y a du drama.
Bien sûr.
Il y a tout ce qui se passe est un petit peu commenté comme si c'était des confessionnaux, un petit peu des confessionnals, je ne sais plus comment.
Confessionnals.
Très fort en télé-réalité, par les différents protagonistes. Voilà, pourquoi ce parti pris ?
Bah, ce parti pris, c'était vraiment pour aller au plus près de l'esprit de la scène ballroom. Mmh. La scène ballroom, c'est quand même le drama, le spectacle, etc. Donc l'idée, c'était d'avoir une série qui était certes documentaire et dans le plus strict sens de la série documentaire.
Très didactique.
Puisque, voilà, ouais. Où on est quand même là pour expliquer la scène, justement les catégories, comprendre comment fonctionne un bowl, etc. etc. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir une veine narrative très forte. D'ailleurs, la série a été co-créée donc par Nasser Sari, le producteur, Elina Gakugumba, l'autre scénariste, et moi. Et donc, Elina, elle vient de la fiction. Mmh. Donc, il y avait vraiment cette idée, quand on a co-écrit la série, quand on a développé avec Elina, d'aller vraiment au cœur de l'émotion. C'est une série qui est drivée par l'émotion. Effectivement, on va dire peut-être plus que par le côté explicatif, même si, normalement, si on a tout bien fait, vous serez aussi ému que en pleine compréhension de ce qui se passe dans la ballroom en termes d'enjeux, de catégories et puis aussi voilà, de rivalité, de tension, etc.
Voilà, parce qu'effectivement, tu parles d'émotions fortes. Moi, je disais hors antenne tout à l'heure que j'avais pleuré devant cette scène, devant cette série. Et j'ai pleuré notamment parce que, on l'a dit, hein, la House of Revlon, c'est pas que de la discipline, c'est donc aussi beaucoup d'émotions, beaucoup d'humains. On va écouter un extrait.
Et dans ta vie perso, là, c'est comment ?
Il y a beaucoup de trucs qui me trigger en ce moment.
C'est quoi ?
Les gars, les hommes.
Oh, girl.
No,
ma chérie.
En gros, je commence à me rendre compte de comment je vais être approchée, l'hypersexualisation, si...
Tu te prends trop la tête. Ma belle, moi, je te parle en vrai français. Sors de ça et vraiment concentre-toi sur ta transition. Concentre-toi sur changement de prénom, changement d'état civil, laisse les hormones faire leur travail, bois de l'eau, fume pas, bois pas, prends pas de drogue. T'es sûre que tu es transitionnée ?
Certaine.
Sûre ?
Certaine.
Ah bah dans ces cas-là, prends ton temps.
Ah ouais ?
Bien sûr. Prends ton temps. Il n'y a pas de destination au final. C'est, tu finis jamais de transitionner.
J'ai
déjà
envie d'avoir aussi la vie que je voudrais avoir dans tous les sens.
Moi aussi, ma chérie. Moi aussi, j'ai un mari, un chien, deux Porsche Cayenne et un MG. Moi aussi, je veux tout ça. Mais je prends mon temps.
Voilà, extrait de l'épisode 1 de la série Ballroom. On a entendu Gisèle, la godmother. Est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu ce personnage absolument central de cette série, Jimmy ?
That's my daughter. Ouais. C'est ma fille. Et c'est la godmother de la House of Revlon.
La marraine.
Oui, c'est ça. Et donc, elle a un rôle très, très important. Et surtout, c'est une femme queen. Femme queen dans la scène, c'est les femmes trans. Mmh. Et donc, du coup, la ballroom scene a été créée par les femmes trans. Ça, c'est un truc à bien préciser. Et donc, du coup, elle a un rôle vraiment central. Et là, tu entendais Gisèle parler à Satine. Satine, qui est une de mes doras aussi, qui commence sa transition. Qui de mieux pour avoir cette discussion que Gisèle, en vrai ? Et donc, du coup, la house, bien évidemment, c'est le ball, c'est les catégories et tout. Mais là, on rentre dans le personnel. On rentre dans la santé mentale, on rentre les papiers, le changement d'état civil, on rentre vraiment dans le personnel et dans le cœur en fait. Et c'est ça aussi la House of Revlon. C'est pas que les strass et les paillettes, c'est la vie de tous les jours.
Et justement, l'espace de compétition, la rigueur, la discipline, est-ce que c'est des valeurs que vous inculquez aussi pour que dans la vie perso, elles se retrouvent dans la vie des kids
I love your question, my love. Bah déjà, pour commencer, comme je te l'ai dit, je suis Capricorne. Donc moi, I'm a boss nigga, I'm a boss bitch. Et du coup, je veux que mes kids le soient aussi. Donc oui, je vais faire en sorte que tu excelles dans ta catégorie. Mais je veux que tu excelles dans la vraie vie aussi. Donc, est-ce que tu vas à l'école? Est-ce que tu te soignes? Est-ce que tu vas prendre des rendez-vous chez le médecin? Do you want to go see a psychiatrist? Tu vois, est-ce que tu as un travail? C'est super important. Et donc, du coup, on s'assure à faire des petits check-in de temps en temps pour voir si tout le monde va bien. Parce que nous aussi, on a nos vies. Hein, et il se passe beaucoup de choses. Mais quand on choisit d'être parent, eh ben, il faut prendre ce rôle vraiment à grand cœur. Quoi.
Oui, j'allais te poser la question. Comment est-ce que toi, tu gères un petit peu tout ce que ces kids de la house ils projettent sur toi? Parce qu'il y a un moment aussi où Mariana, elle remet un peu l'église au milieu du village. Elle dit, genre, en vrai, ces gens, ils ont aussi une famille biologique. Ouais. Il faut aussi qu'on s'en souvienne.
Bah, très sincèrement, it's a lot. C'est beaucoup des fois. Mais j'ai instauré un système où il y a Giselle, Godmother, Kobe, Godfather, Riley, Princess, Black Prince. Et donc, du coup, je peux compter sur les leaders de la house aussi pour m'épauler et surtout les kids aussi se sentent libres et à l'aise d'aller discuter avec eux et pas venir me voir directement puisque j'ai beaucoup de choses à faire aussi et j'ai pas que la France. J'ai tous les kids avec toutes les langues qui viennent me parler de leurs soucis aussi personnels. Et donc, du coup, bah, c'est un village. Et du coup, bah, j'ai mes chefs de village qui font le taf, hein, tout simplement.
Et toi, Amandine, comment est-ce que... Parce que ça donne une série du coup, très rythmée où on alterne entre le training militaire, elle disait, les compétitions, on va y revenir. Et puis ces moments beaucoup plus émouvants. Il y a aussi toute cette scène avec Edilson qui commence un petit peu... Alors, qui est un peu en galère, Edilson. Hein, il ne va pas très, très bien. Il est pris un peu dans une relation toxique et il commence à un petit peu explorer sa part de féminité. Il est épaulé par la house pour ça. Comment est-ce que toi, tu as réussi à te placer aussi près des différents protagonistes pour capter avec ta caméra ces moments-là, Amandine?
Bah moi, ce qui m'intéresse dans le documentaire, c'est de pouvoir justement aller au plus près des personnes. En fait, ce qui est magique quand tu fais du documentaire, c'est que tu rencontres des êtres humains. Là, moi, j'ai passé un an et demi avec la House of Revlon. Alors, pas au quotidien, mais déjà, il y a tout un travail aussi pour se faire accepter. Moi, c'est vrai que quand je commence un projet, j'arrive pas avec les caméras. Une des choses qui est très importante, c'est aussi d'expliquer et que c'est le cadre éthique dans lequel moi, j'aime travailler. Donc, quand on a commencé, Elina et moi, on a aussi été se présenter auprès des Revlon avant de commencer les pré-entretiens pour leur expliquer comment on allait travailler, ce qui nous intéressait, etc., les différentes étapes. Moi, je donne aussi toujours des liens vers mes travaux précédents, les films. Je propose de donner mon livre si les gens veulent le lire, etc., pour aussi que les gens sachent qui je suis, quelle est mon approche, voilà, qu'on soit vraiment un peu sur la même longueur d'onde. Et puis ensuite, on fait donc des pré-entretiens au café, etc., pour apprendre à se connaître, voir un peu quels sont les grands angles de vie, puis nous on était en train de développer, donc de qui est-ce qu'on va suivre. L'idée c'est aussi ça, c'est que bien sûr c'est toujours chouette d'avoir comme un ingénu ou une ingénue, Edilson, parce que la personne qui découvre la scène, c'est aussi la personne qui va permettre au public de s'identifier et de découvrir la scène avec cette personne. Ensuite c'est génial d'avoir une personne comme Giselle, bon voilà, qui est une icône, une star. Je veux dire, tu tombes sur une Giselle, t'es en mode merci mon Dieu. Tu sais que t'as déjà un de tes personnages centraux dans la série, mais aussi parce qu'elle a justement cette versatilité. La Giselle que tout le monde connaît dans l'espace public, effectivement, c'est la bad bitch, c'est le training militaire, etc. Mais Giselle, elle a tout ce volet de soins aussi, d'accompagnement. Et comme Vinnie, d'ailleurs, d'être un modèle aussi dans nos communautés, on ne se rend pas compte. Mais voilà, moi, j'ai 40 ans. Moi, je suis presque une grand-mère. et en fait, il y a un vrai sujet, je veux dire, dans les communautés queer, en particulier racisées, avoir des aînés, pouvoir se projeter pour quelqu'un comme Satine, de pouvoir discuter avec Gisèle, qu'elle lui donne des conseils et qu'elle lui montre qu'en fait, voilà, on peut avoir une vie et juste vivre sa vie, etc. C'est hyper important. Donc d'abord, des pré-entretiens au calme, sans caméra, apprendre à se connaître. On est aussi beaucoup venu en training. Voilà, moi, j'ai même fait des échauffements de training. Après, je me suis arrêtée à l'échauffement, c'est trop difficile. Et puis après, on commence à tourner, etc. Et donc ça, je pense que cette qualité de relation, et puis aussi, voilà, moi, j'aime bien inviter les gens chez moi. Donc voilà, on a fait des brunchs. On a, nous aussi, été... C'était l'anniversaire de Gisèle l'été dernier. On a été à son anniversaire, etc.
Donc tu fais partie de la house maintenant.
Hello. Yes, she's a Revlon.
Justement, la famille, l'identité, la communauté, tout ça, c'est des thématiques qui sont quand même au centre de ton travail en général, que ce soit dans Ouvrir la voie en 2017. Donc c'est un documentaire que tu avais sorti qui donnait la parole aux femmes noires qui sont vraiment une expérience croisée entre sexisme et racisme, et aussi adoptée du coup en 2024, centrée sur l'adoption internationale. Est-ce que ces thématiques-là, du coup, tu les as retrouvées au sein de la ballroom, je suppose?
Oui, je dirais même que moi, ce qui m'intéresse, après, voilà, je suis comme tout le monde, hein, je trouve que l'univers est fabuleux, voilà, les tenues, le make-up, la musique, la danse, mais c'est vrai que moi, dans mes obsessions personnelles, ce qui m'intéresse quand je m'intéresse à la ballroom, c'est la famille choisie. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette question de comment est-ce qu'on crée du lien, la transmission. Vous avez parlé de Tony au début, je veux dire, cette idée aussi de, c'est quand même parmi des populations les plus précarisées au monde, qui ont créé une culture ex nihilo à partir de rien du tout, dans les années 80-90, donc en pleine crise du sida, parce que c'est aussi ça le lien de la ballroom, c'est non seulement aider des personnes queer, racisées, jeunes qui ont été sorties de chez elles, mais ça naît dans un moment d'énorme crise à New York et aux États-Unis et dans le monde, dans les communautés, surtout gays et trans à l'époque, on va dire, même si les lesbiennes étaient là pour aider la commu, etc., dans le soin. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment cet enjeu de comment est-ce qu'on recrée du lien quand on a perdu des liens. Donc c'est sûr que moi ça m'intéresse aussi parce que je suis adoptée, etc. Comment est-ce qu'on se crée des familles, comment est-ce qu'on peut transmettre une culture génération après génération à travers un océan, etc. Donc moi c'est ça qui m'anime beaucoup. Ouais.
Et ça donne donc cette magnifique série Ballroom, 5 épisodes à voir à partir du 30 juillet sur France TV/Hélène. C'est ton grand retour, mais où étais-tu donc passé?
Bonsoir le lobby, et bonsoir. Oui, me voilà de retour après une longue absence, j'en suis navrée, j'ai passé quelques semaines de dur labeur à finir d'écrire mon mémoire, nuit et jour, mémoire Bravo. Sur le queer au musée d'ailleurs, et oui, que voulez-vous, le lobby queer est absolument partout, même sur les bancs de l'université. Alors ce soir, je voulais vous parler d'une découverte artistique que j'ai faite la semaine dernière pendant les rencontres de la photographie d'Arles. C'était, à vrai dire, la toute première fois que j'y allais et j'ai été agréablement surprise de voir que cette édition mettait en lumière de nombreux et nombreux artistes queer dans différentes expositions. Le travail de l'artiste, plasticienne et cinéaste brésilienne Mayara Ferrao au sein de l'exposition Futurs Ancestraux a tout particulièrement retenu mon attention. On y retrouve les photographies faisant partie de son album « Du désoubli » réalisé en 2024. Dans ce projet, l'artiste s'empare de l'intelligence artificielle pour effectuer une contre-narration, une relecture de l'histoire des femmes esclaves noires du Brésil, en imaginant des histoires d'amour entre ces femmes. Mayara Ferrao puise dans des archives officielles qu'elle réactive et transforme, donc avec l'IA, pour créer cet imaginaire lesbien, dans des photographies tout à fait touchantes de couples de lesbiennes s'embrassant au beau milieu d'une forêt ou encore de scènes fictives de mariage. Ce qui est aussi intéressant, c'est tout le travail effectué par l'artiste pour générer les prompts, vous savez, ces indications que l'on donne pour générer un texte ou une image avec l'IA, afin de créer ces images. Un travail qui nécessite aussi de détourner un algorithme biaisé par des représentations blanches et hétérosexuelles. Le cartel qui accompagne son travail dans l'exposition reprend une citation de l'autrice Fernanda Silva e Souza, qui résonne tout à fait avec l'œuvre de Mayara Ferrao, qui dit « Pour désoublier l'amour entre femmes noires, il faut créer de nouveaux souvenirs de ce dont on ne pensait pas pouvoir se rappeler ». Les œuvres de l'artiste dialoguent par ailleurs avec celles d'autres artistes contemporains du Brésil qui reconstituent des mémoires perdues ou qui n'ont pu exister. Ces artistes contestent les récits officiels et l'invisibilisation des populations et minorités afro-brésiliennes, immigrées, autochtones et LGBTQIA+. Si vous avez en tout cas l'occasion de passer à Arles prochainement, je vous encourage vivement à aller voir cette exposition Futurs Ancestraux qui se tiendra jusqu'au 5 octobre au sein de l'église des Trinitaires.
Et ben voilà, à Arles. Merci beaucoup à Hélène. Tu nous redonnes le nom de l'artiste?
Alors, c'est Mayara Ferrao.
Merci
si
beaucoup.
Si je le prononce bien.
Vinny, je t'ai vu écarquiller les yeux.
Le monde est très petit.
Tiens donc.
Je retourne au Brésil le mois prochain, parce que c'est l'échange culturel entre la France et le Brésil cette année. Et je vais travailler avec elle.
C'est génial.
Je vais travailler avec elle pendant 2 semaines. Ouais.
Et bien, tu l'embrasses de notre part.
Mais oui.
Moi, je suis devenue absolument fan de son travail. C'est trop bien.
Vinny Revlon, Amandine Gay, on continue à parler de Ballroom dans un instant, mais pour l'heure, il est 20h26.
Le lobby. Radio Campus Paris.
Et à 7h, oh là là, les gens sont très très bavards aujourd'hui dans ce studio, les gens sont dissipés. À 7h dans le lobby, on réécoute les meilleurs lives de nos 6 dernières années d'émission et ça en fait des archives et on en a reçu des stars comme par exemple Amandine Gay, Vinny Revlon, mais aussi Mélissa Lavo. Change guns in weeks. Couldn't drag me down. Couldn't take me down. I'm a great bitch. Create the wilderness in your heart, in your mind. Shake loose from the sanity. Leave it all behind. Girl, you got red. Tree trunks for backbones. Grey cotton, grey cotton wool. Brass swords for rose thorns. Grey cotton wool. Come on. Half a wizard, every witch. Ever martyr, ever saint. Change games in which couldn't drag me down, couldn't drag me down. I'm a bad bitch. Half a wizard, ever witch. Half a martyr, ever saint. Change games in which couldn't drag me down, couldn't take me down. I'm a bad bitch. They trap. A siren, far from shore, onto land. Clever thing, found her skin, belching rain. Till she said, grey cotton wool. Mélissa Lavo et son titre Half a Wizard, Half a Wish, un peu sorcier, un peu sorcière, extrait de son album Mama Forgot Her Name Was Miracle, c'était sur la scène du Hasard Ludique en juin 2023. On est toujours avec nos invités, Amandine Gay, réalisatrice de la série Ballroom, série doc à voir sur France TV/ à partir du 30 juillet prochain, et Vinny Revlon, le phaser de la House of Revlon, évidemment.
I want to take voguing not to just Paris is burning, but I want to take it to the real Paris. And make the real Paris burn. That's what I want to do. And not just there, but to other countries as well. I want to be a big star. Known generally every corner of the world.
extrait de Paris is Burning, l'incontournable documentaire de Jenny Livingston sorti en 90. On entendait la voix de Willy Ninja, le parrain du voguing, un petit peu, je peux le dire comme ça. Hein. Yes. Il a fondé la House of Ninja en 82. Et Amandine, je crois que c'est par ce film Paris is Burning que tu as découvert la ballroom scene, comme pas mal de gens d'ailleurs.
Exactement, oui, bah moi j'ai grandi à la campagne dans les années 80-90, donc laisse-moi te dire, j'étais très très loin de la ballroom scene, hein. J'étais à la campagne lyonnaise. Mais oui, effectivement, comme je me suis passionnée pour le documentaire assez tôt dans ma vie, je me suis retrouvée en stage de deuxième année à la fac à l'USAS, qui est un haut lieu du documentaire où il y a une grosse... comme on dit, comme vidéothèque, etc. Et donc c'est là que j'ai vu Paris is Burning pour la première fois, donc je devais avoir 19 ans. Et j'ai proprement halluciné. J'étais en mode genre, mais il se passe tellement de choses. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a vraiment, voilà, ça m'a beaucoup plu, encore une fois, pour les thématiques, parce que j'ai toujours été très centrée sur la question de la famille ou des familles, on va dire. Et puis ensuite, découvrir que cette scène avait vraiment explosé à l'international et en particulier en France, j'ai trouvé ça fantastique. Et là, on en parlait aussi pendant la pause. C'est vrai que c'est quand même très lié aussi aux cultures noires, aux diasporas noires, etc. Je veux dire, noirs et latinos. Et du coup, je me disais, c'est tellement intéressant de voir qu'en plus, ce qui était un souhait dans le film, s'est matérialisé effectivement quelques décennies plus tard. Et la flamme de la scène ballroom brûle très très fort à Paris.
Ah, c'est une dinguerie.
Et toi, Vinny, c'est quoi ta relation à ce film et aussi à peut-être d'autres séries, d'autres films qui ont été faits sur la ballroom, notamment Pose de Ryan Murphy, je pense à ça. Est-ce que ça te consécration ou plutôt...
Paris is Burning, la première fois que j'ai vu ce film, je me suis dit, you know what, c'est pour moi. Tu vois, je me suis dit, c'est pour moi, ça m'a parlé à tellement de niveaux. Et aujourd'hui, de faire partie des personnes qui maintient le feu en vie, allumé, qui est là avec la torche, c'est incroyable. Tu sais, on a ramené quand même le voguing aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques en France, c'était il y a 101 ans du coup. Et il n'y avait pas du tout question d'avoir des LGBTQIA+ sur le dance floor. Officiellement.
Et encore moins des personnes queer racisées, d'ailleurs. Hello. Parce que vous le dites, je crois, un moment dans le. Je sais plus quel personnage parle dans la série et dit, mais Vinny, quand il va à des réunions pour organiser
c'est
ça,
ça.
Voilà, c'est la seule personne racisée autour de la table, quoi.
Et tu vois, je m'excuse pas du tout d'être dans la salle. Au contraire, bitch, it's about time. Il était temps, en fait. Et donc, du coup, quand je regarde Paris is Burning, quand j'ai vu Paris is Burning, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et aujourd'hui, it makes sense. Et c'est une fierté. C'est une fierté. Et surtout, oui, je suis là avec vous et vous entendez Vinnie Revlon, but it's bigger than me, c'est beaucoup plus gros que moi. Moi, c'est vraiment pour la communauté et c'est pour les jeunes qui vont nous regarder demain et qui vont se dire, purée, j'ai envie d'être comme eux, purée, il y a un monde qui existe où on peut être libre, j'ai envie de me sentir bien et ils vont avoir peut-être beaucoup d'interrogations, mais on va peut-être avoir beaucoup de réponses aussi. Et moi, j'avais pas ça quand j'étais jeune et aujourd'hui, avec une série comme la nôtre, ils auront l'occasion en fait d'avoir des réponses à des questions, je suppose.
Amandine, est-ce que on parlait de Paris is Burning, est-ce que esthétiquement ça a été une source d'inspiration, parce que il y a des scènes de compétition de ball qui sont hyper belle et que j'ai voulu aussi mettre en miroir en regardant la série, à la série Legendary sur HBO Max, à laquelle la House of Revlon a participé pendant la saison 3, donc grande compétition de voguing. Et avec aussi une grammaire spécifique aussi à ce genre de programme, qui n'est pas du tout celle que toi tu emploies, avec des plans quand même qui prennent le temps aussi de regarder ces mouvements. C'est pas du tout ce truc très coupé comme ça. Donc voilà, est-ce que Paris is Burning, ça t'a inspiré de ce point de vue-là?
Disons qu'effectivement, moi je viens plutôt du cinéma à réessai et des longs métrages.
Donc pas c'est de HBO Max.
Après, non, moi j'adore, hein, j'ai regardé Legendary, etc.
C'est juste une autre proposition artistique.
C'est une autre proposition artistique. Et c'est vrai que moi ce qui m'intéressait, c'était, une des choses aussi que j'ai trouvé fascinante, effectivement, dans Paris is Burning, c'est la forme. Et c'est vrai que pour moi, pour Ballroom, il y avait vraiment cette idée de se dire, il faut que la forme matche le fond. Par définition, ça va être intéressant, etc. Aujourd'hui aussi, on a quand même énormément de représentations de la scène Ballroom par le biais des réseaux sociaux. Il y a plein de chaînes, je pense à Paris Ballroom TV, etc. Donc, il y a une existence visuelle de la scène Ballroom. Et donc, pour moi, c'était important aussi de proposer autre chose. Et donc, c'est vrai qu'on a vraiment fait attention à tourner avec... parfois, on a beaucoup de ralentis, par exemple. On a vraiment réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait... donner à voir les personnes aussi dans les les face caméra, c'est-à-dire que bien sûr il y a le côté très pop avec les fonds de couleurs, etc. Mais par exemple, les personnes qui ont vu mon premier film remarqueront que les face caméra, quand on est sur le plan serré, on n'est pas sur une caméra sur un pied, on est sur une caméra qui est portée. Ça, c'est un travail qui vient de mon collaborateur de longue date, Enrico Bartolucci, qui était déjà à la caméra pour ouvrir la voie et qui est aussi à l'image d'Une histoire à soi et qui est donc aussi à l'image de Ballroom. Parce qu'en fait, quand on a une caméra portée pour les portraits, bah, c'est beaucoup plus organique. On est vraiment avec la personne. Et donc, c'est des petits détails, mais c'est vraiment cette idée aussi de... Moi, ça m'intéressait... En France, il y a beaucoup une dichotomie. Hein, c'est on fait de la télé ou on fait du cinéma. Et moi, je pense qu'on peut amener ou qu'on peut pousser, en tout cas, la forme aussi à la télévision. Mmh. Et donc, c'est vrai que Ballroom, ça a cette ambition-là aussi. C'est d'être une proposition visuelle forte, puisque le sujet le permet, en plus. S'il y a un endroit où on peut s'éclater, c'est avec la scène Ballroom.
Alors...
Et on a parlé beaucoup de communautés, de familles choisies, etc. Et y a, mais il y a aussi tout un aspect de la house et de la scène qui nous intéresse. C'est l'aspect un peu business, finalement. donc Gisèle, dans l'épisode 1, elle dit que la House of Revlon, c'est 80% business. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça évoque et comment ça se déploie, en fait, tout ça?
Alors... 80% business, et c'était un peu trop gonflé comme chiffre.
Il y a eu des négociations dans cette scène.
C'est dans une scène de tension quand même.
C'est dans une scène de tension, mais c'est réel. Aujourd'hui, le voguing, il est très demandé. Et donc, du coup, les Revlon, on est très demandé. Le plus important, c'est comment tu réponds. Moi, quand on m'approche pour une pub ou pour une campagne ou autre, on me demande d'enseigner des mouvements à des danseurs. Et donc, du coup, la discussion, c'est pas possible. Est-ce que ces danseurs-là font partie de la communauté, déjà? Et ensuite, est-ce que ces danseurs-là font partie de la ballroom scene? Parce que c'est pas parce que tu es gay ou lesbienne ou juste une personne trans que tu fais partie de la ballroom scene. Il y a des personnes dans la communauté qui ne savent même pas que ça existe encore, tu vois? Et donc, du coup, je fais en sorte que les personnes en fait qui sont demandées soit les personnes éligibles, en fait tu fais partie de la scène, tu peux accéder à ce genre de gig, et c'est compliqué parce que en fait des fois ils essaient de passer par d'autres personnes pour avoir un semblant de voguing, et du coup nous en tant que gatekeeper, on essaye vraiment de tenir vraiment la porte et se dire que tu veux du voguing, on va te mettre les vogueurs avec leur corps, leur couleur. C'est pas juste type mannequin, non. It's big, short, skinny, fat, you know. Et parce que chez nous, les corps, ils sont célébrés et tous les corps sont célébrés. Et ça, c'est un message que je tiens à repréciser et que je repréciserai toujours à toutes les personnes qui veulent du voguing.
Et puis moi, je voudrais aussi quand même dire qu'il y a un côté politique dans le fait de faire travailler les gens de la scène.
Voilà.
Parce que c'est aussi les sortir de la précarité, et en lien aussi avec la question qu'il y a eu un peu plus tôt sur Paris is Burning, qui est un film qui a quand même représenté des controverses. Mmh. Et certains projets autour de la scène ballroom ont représenté des controverses au titre de qui bénéficie de ces projets à long terme, qui va pouvoir bâtir des carrières, etc., sur les cultures marginalisées. Et du coup, une des choses qui est intéressante avec la House of Revlon, le travail que fait Vini, etc., c'est de se dire justement les membres de la scène vont bénéficier de la culture que il et elle en fait développent, et ça va pas être genre quand ça réussit que ça devient lucratif, en fait c'est des personnes extérieures qui vont venir qui n'appartiennent pas à la scène et qui vont en bénéficier et qui vont en faire un business. Donc il y a aussi cet élément là je trouve qui est très important.
Non, c'est vrai, et surtout c'est un travail. Du coup, quand je dois booker mes kids pour faire une pub ou faire un gig concernant une marque, c'est un travail. Donc du coup, en tant que Capricorne, je demande une rigueur qui est sans nom, parce que je suis comme ça, et je me fâche quand c'est pas le cas. Je pense que tu as dû le voir, Amandine.
Et ça fait partie de la transmission. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas juste le soin, etc. On est aussi parfois sur des kids qui ont vraiment un côté kids et à qui, en fait, c'est important. Moi, j'ai attendu des personnes, alors beaucoup moins quand Vinny a tapé du poing sur la table. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu de, en fait, quand on mobilise un crew pour venir tourner, tu n'arrives pas à 25 minutes, 30 un minutes, quoi. Une heure après. Voilà. Et donc, c'est aussi à ça que sert Vinnie Lauss.
Le sous-titre de cette série Ballroom, c'est « Danser pour exister ». Et tu dis un truc magnifique, Vinnie, dans cette série, à propos du voguing. Tu parles à un moment du fait de se laisser tomber comme ça sur le dos, qui est un mouvement assez caractéristique. Et tu dis « Quand tu fais une chute, tu déposes tous tes traumas ». Bah, je trouve ça très beau.
Bah, écoute, c'est réel, surtout. Déjà, le monde, il est très compliqué. Et quand t'es racisé, c'est très compliqué. Et quand t'es queer, c'est encore plus compliqué. Et puis, moi, je suis africain. Et mes parents, ils viennent du bled. Et donc, du coup, ils ont une autre mentalité. Et puis après, ils sont aussi dans la religion. Et donc, c'est encore une autre mentalité. Et puis, toi, tu demandes pas de naître. Mais on t'impose plein de choses, tu vois. Et donc, avec tout ce qui se passe autour de toi, bah, en fait, ça crée plein de traumas. Et ce que tu as envie de faire quand tu danses, c'est juste, en fait, leave it on the floor. Vraiment le déposer sur le floor. Et le deep, c'est ça. Le deep qui est écrit D-I-P et D-E-E-P, profond. Donc, ce mouvement-là, le mouvement le plus spectaculaire, bah, en fait, c'est violent parce qu'en fait, on subit constamment des violences.
Ce reflet un peu cathartique. Ballroom, c'est à voir le 30 juillet sur France TV Slash, je le rappelle. Alexis, c'est à toi.
C'est moi.
C'est très bien.
Eh bien, ces deux derniers jeudis, si comme moi, vous êtes de bons soldats homosexuels qui ont accompli leur devoir, vous étiez peut-être à la Felicita pour voir la viewing de la course des Travelottes de France, Drag Race France, quoi. Que dis-je, la viewing, l'une des seules viewings de Drag Race que j'ai trouvé de gratuite, et croyez-moi, j'ai cherché pour éviter de me retrouver entassé avec tous les homosexuels parisiens. Ce dont je veux vous parler, en fait, ce sont ces endroits, ces soirées qui sont vendues comme queer et inclusifs. Attendez, inclusif avec des entrées à ces soirées à plus de 20 balles, bon, je ne suis pas si sûr, et queer pas certain non plus tout le temps. Je vais prendre l'exemple au hasard de la jeudi OK, qui est un petit peu la soirée techno électro-pop parisienne pour les homosexuels. Alors, elle aussi, elle propose des viewings gratuites, c'est pas mal. Mais ce que je déplore un petit peu, c'est que c'est devenu l'endroit du « m'as-tu vu ». Si on n'a pas sucé dans les chiottes du Wanderlust le lieu de la soirée et qu'on ne l'a pas fait savoir à tous ces mythes Twitter, enfin X, c'est comme la Rolex. À 50 ans, on a raté sa vie. Une fois à l'intérieur, évidemment, comme dans beaucoup d'établissements nocturnes, on ne lésine pas sur les prix. Alors bon, ok, évidemment, il faut bien que ces lieux vivent et tiennent. Et on voit d'ailleurs que ça peut être très compliqué pour les lieux qui souhaitent rester accessibles, comme la mutinerie, iconique bar lesbien et féministe qu'on a failli voir disparaître il y a presque un an, et d'autres endroits mythiques comme l'open bar qui a déjà mis la clé sous la porte. Mais du coup, il nous reste quoi comme endroit accessible pour se retrouver ? Quand on sait que les personnes queer, on vient d'en parler, ont davantage de chances de se retrouver précarisées, beaucoup d'études ont démontré un écart salarial d'environ 5% entre les personnes LGBTQIA+ et les personnes cisgenres hétéros. Eh bien, nos lieux de rencontre ferment et peut-être parce qu'on a l'impression qu'on est plus accepté. Bon, bah, finalement, avec les chiffres que je viens de citer, je ne suis pas sûr. Et au vu des... quand on regarde le Marais, le prix de l'immobilier flambe. Au lieu des bars réellement queer, on retrouve tout un tas de commerces qui peuvent être présentés comme gay-friendly, hein, parce qu'il faut quand même garder l'esprit du Marais, mais qui restent des friperies où on vend des jeans troués à 50 balles. Et finalement, les LGBT+, qui y sont vraiment acceptés, sont essentiellement des homosexuels bien rangés, faisant partie des CSP+. Et comme dans les soirées à plus de 20 balles l'entrée, eh bien, ce sont moins les spotlights qui m'éblouissent que la couleur de peau des personnes présentes là-bas. Puis, ces fameuses soirées parisiennes qui font qu'on est in si on y va, sont-elles vraiment nos alliés ? Non, je pose la question parce qu'en mai dernier, au moment où nous pouvions signer une pétition pour interdire les thérapies de conversion, j'en ai vu aucune repartager le lien de la pétition sur ses réseaux. Ou alors, s'il y en a, signalez-le-moi. En tout cas, une connaissance à moi a envoyé un DM au compte de chez Mylène et à celui d'une soirée semblable, j'ai plus le nom en tête, pour les inciter à partager la pétition. Résultat, il s'est simplement pris un énorme vu à chaque fois. Alors, pour finir, si vous en avez marre des viewings de All Star où on ne voit que des Rougirls et des soirées où on vous fait payer un max, je vous conseille La Chaudière de la Grande Patricia ou les Watch Parties de l'émission King of Drag, le pendant King de Drag Race, organisé par Jackie Fuego.
Bah merci Alexis, puis on peut aller aussi au Watching Party de Kings of Drags, on en a parlé avec Olga August Wolfson, Miroslav Tolemain ici, c'est au Cavern Space Monkey, merci beaucoup. Très très rapidement, Vinnie Revlon, parce que ça m'intéresse ce que dit Alexis par rapport à la House of Revlon et à la ballroom scene. Tu disais, Maïel, tout à l'heure que toi, la première fois que tu es allée à un ball, c'était au Centre Pompidou. Y en a beaucoup à la Gaîté Lyrique aussi, qui je crois coproduit cette
série. That's right.
Et on a regardé, souvent, c'est quand même très accessible, voire gratuit. C'est important.
Alors, il y a les Major Balls et il y a les Kiki Balls.
Voilà.
Et donc les Major Balls,
en
gros,
c'est la Ligue 1 et la Ligue 2.
Exactement.
Et les Kiki Balls. Qui va avoir cette référence dans les épisodes.
C'est peut-être pas ici, mais bon. Mais en plus, Amandine, elle explique très bien dans une interview aussi. Mais anyway, donc. En effet, on essaye de faire en sorte que les prix soient plutôt accessibles et abordables pour, parce que la Disney Day, c'est pour les jeunes et c'est pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens à la base de se payer tout le temps des entrées. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de bols, tu vois. La Gaîté Lyrique, c'est vraiment la maison mère un peu ici en France, je dirais en France, pour les meilleurs bols. et du coup, vu que c'est mes bols, je fais en sorte que ce soit un peu accessible à tout le monde. C'est important.
Transpire à grosses gouttes sur le kata. Pas qu'à chimper tout bout, c'est la kata. Il faut lever les voiles, plus personne ne parle. Ils ont donné leur langue au chata. Bateau pirate dans le tour des yoles. Plus de boissons, tout le monde s'affole. Faut se remettre en selle, on est loin comme des belles. La jeunesse elle est belle, bon ta maman. Le rhum c'est de l'eau, laissez-nous rouler par terre. Laissez-nous rouler par terre. Le rhum c'est de l'eau, laissez-nous rouler par terre. Laissez-nous rouler par terre. Le rhum c'est de l'eau, l'eau, l'eau. 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 Par le bout du nez il nous freine. Regarde un peu où ça nous a mené. Ngo va du lundi au dimanche. On ne dit jamais non aux dimanches. On nous donnerait le bon Dieu sans confession. Mais on ne monte à bord jamais sans cargaison. Nous sommes romiers de père en fils. Si tu veux pas qu'il glisse, laisse pas traîner ton rhum. Sol qu'a collé qu'on négocie, wow. Fais ce qu'a volé bord et balacho. Sol qu'a collé qu'on négocie, wow. Fais ce qu'a volé bord et balacho. Le rhum c'est de l'eau, laissez-nous rouler par terre. Laissez-nous rouler par terre. Le rhum c'est de l'eau, laissez-nous rouler par terre. Laissez-nous rouler par terre. Le rhum c'est de l'eau, l'eau, l'eau. 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 Ça transpire à grosses gouttes sur la cata. Pas qu'à chimper tout bout, c'est la cata. Il faut lever les voiles, plus personne ne parle. Ils ont donné leur langue au chata. Bateau pirate dans le tour des yoles. Plus de boissons, tout le monde s'affole. Faut se remettre en selle, on est rond comme des pelles. La jeunesse elle est belle, bon ta maman. Le rhum c'est de l'eau, laissez-nous rouler par terre. Laissez-nous rouler par terre. Le rhum c'est de l'eau, laissez-nous rouler par terre. Laissez-nous rouler par terre. Le rhum c'est de l'eau, l'eau, l'eau. Le rhum c'est de l'eau, l'eau, l'eau. Le rhum c'est de l'eau, l'eau, l'eau. Le rhum c'est de l'eau, l'eau.
Le retour du chanteur martiniquais Vartang avec ce tube estival, le rhum c'est de l'eau, avec modération bien sûr. 20h49. Et pour qui je me prends ce soir? Vous écoutez Le Lobby, le rendez-vous queer de Radio Campus Paris, et pour notre dernière de la saison, on est toujours en très bonne compagnie. Il y a Amandine Guerre, réalisatrice de la série Ballroom à voir sur France TV / à partir du 30 juillet, série documentaire consacrée à la House of Revlon, dont le phaseur Vinnie Revlon est encore avec nous pour quelques instants. On s'est posé la question avec Maïel un petit peu des évolutions aussi et de l'aspect très traditionnel de ces arts de la ballroom scene, je ne sais pas si on peut vraiment le dire comme ça. On s'est on réfléchissait notamment à cette fameuse catégorie realness, donc c'est-à-dire passer pour une personne hétéro ou passer pour une personne cis. Est-ce que c'est assez intéressant d'ailleurs, on n'a pas le temps d'écouter Kayona nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est, mais on se disait tiens, c'est intéressant que ça soit toujours très d'actualité dans la ballroom scene. À une époque, on est en train de justement voir émerger des discours sur y a pas, c'est pas grave si ça se voit que je suis trans ou si ça se voit dans l'espace public que je suis PD, etc. Comment est-ce que voilà ça, qu'est-ce que ça t'évoque toi,
bah, déjà, la ballroom scene est la un ball, c'est un grand théâtre aussi. Hein. On se moque de plein de codes. Mais j'aime aussi dire que en fait. Il y a beaucoup de on va parler de garçons, il y a beaucoup de gays qui sont très flamboyants. C'est très bien, on assume, et surtout, on est en 2025, bitch, I'm shining, and what? Mais il y a aussi, en fait, des gays qui sont très virils et qui sont très masculins, et eux aussi méritent d'être célébrés. Et en fait, et eux aussi méritent cet espace. Et donc, c'est important aussi qu'on montre tout.
Ouais.
C'est important qu'on montre tout parce que en fait, j'ai besoin que ces garçons puissent regarder des personnes comme Snow, des personnes comme Kobe, puissent s'identifier et se dire que bah, en fait, je peux être viril et ensuite je peux mettre des talons et ensuite je peux mettre une perruque. Et ensuite, je peux venir un ball.
Et ça donne des scènes un petit peu surréalistes où il y a Kobe qui est en train d'affronter quelqu'un d'autre dans cette catégorie et qui dit genre voilà, s'il a une boucle d'oreille, je vais pas laisser passer ça. Enfin, bon.
Mais après, je pense qu'il y a aussi un truc dans la catégorie realness, c'est que c'est quand même, faut pas oublier qu'on est quand même principalement sur des personnes queer racisées,
voilà.
Même s'il y a des personnes blanches dans la scène ballroom. Et on est aussi sur des personnes queer racisées qui viennent de milieux plutôt marginalisés. Mmh. Et donc pour qui, en fait, c'est pas pour tout le monde que ne pas avoir de passing, c'est pas un problème. En fait, avoir un passing, que ce soit un passing hétéro ou un passing cisgenre, ça peut être une question de survie. Et je pense que la ballroom scene, elle rappelle ça aussi. Les milieux LGBTQIA+++ ne sont pas homogènes. Et souvent, celles et ceux qui ont le plus la parole dans ces milieux-là sont quand même les personnes les plus privilégiées, donc blanches, donc cisgenres.
Donc, ils peuvent avoir cette réflexion critique, entre guillemets, sur le passing.
Tout le monde n'y a pas accès.
Bien sûr. Ouais.
Et donc, du coup, je pense que c'est aussi important de rappeler ça. Que tout le monde n'a pas les mêmes outils, n'a pas la même liberté. Et donc, en fait, c'est encore très important pour certaines personnes de célébrer leur capacité à avoir survécu jusque-là parce que, justement, elles sont en mesure de passer.
Et justement, avec la prise d'ampleur, l'arrivée presque dans une sorte de mainstream, en fait, de la ballroom scene, on a un public qui blanchit, il faut le dire aussi. Est-ce que c'est un public qu'il faut aussi éduquer, qu'il faut faire rentrer? Comment, en fait, on...
Tu dis un moment, Vinnie, d'ailleurs, au début d'un ball, on n'est pas au musée ici, comme si tu donnais un peu un mode d'emploi.
Bah, en fait, l'éducation, elle ne finira jamais. C'est il y a des balls où tu vas voir des personnes blanches mettre des perruques afro dans des pays, tu te dis mais en fait on est en 2025, are you sleeping still? Donc en vrai l'éducation elle ne finira jamais. C'est simple, quand je fais un ball, c'est comme si je t'invitais chez moi et je te dis au creux de la porte tu dois retirer tes chaussures pour accéder à chez moi, en fait. Donc du coup, si tu le fais, welcome, if you don't, go the fuck out. Et c'est un peu ça, en fait, ce qu'on fait dans les balls. C'est toujours, on éduque le public, mais aussi on éduque les gens de la scène. Hein, parce que c'est pas parce que tu fais partie de la scène que tu as la science infuse. Crois-moi.
On avait encore plein de questions, mais il est déjà 53-30, 20h53-30. En tout cas, Ballroom, c'est à voir à partir du 30 juillet sur France TV/réalisation Amandine Gay. Et puis je signale aussi la watch party de la série, le 30 juillet aussi à 19h au Bunker. Visionnage du premier épisode suivi d'un DJ set de quali qualité, mais c'est sold out.
Tout à fait.
On est victime de notre succès. Désolé.
Allez Zoé, je te donne la parole, c'est à toi, on t'écoute.
Oui, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite déclat à Mariana Enriquez. Donc pour celles qui ne la connaîtraient pas, c'est une autrice argentine qui écrit principalement de la fiction dans la veine du réalisme magique. Je vais respirer un peu.
Prends ton temps.
Donc ces nouvelles, peuplées de présences fantomatiques, gothiques et d'enfants bizarres, ont conquis le monde. Vous avez peut-être entendu parler de son roman / chef-d'œuvre / énorme pavé, Notre part de nuit. En espagnol, Nuestra parte de noche. Moi aussi, Colin, j'ai fait élever de Belmont.
Wow.
Si je vous en parle au lobby, c'est parce que déjà, j'adore et j'estime que j'ai bon goût, même si je ne suis pas capricorne, mais je suis vierge. Et du moins, j'avais choisi allemand au collège, donc voilà. Mais,
Moi aussi.
Et deuxièmement, ses écrits présentent beaucoup de personnages queer, mais inspiration dramatique.
ce n'est pas le sujet de l'intrigue. Larme à l'œil. Merci Mariana. Ça change des récits de coming out adolescents ou des histoires d'amour impossibles, option dispute violente avec parents plus suicide final. Non, ces personnages vivent des trucs absolument fous, magiques et flippants, tout en étant en passant de la jaquette. Comme quoi, c'est possible. Vive les représentations LGBT simples et bien écrites. Humour, tendresse, suspense, tout y est. Point histoire, Mariana Enriquez est née en 1973 et les années de dictature militaire entre 76 et 83 l'ont beaucoup marquée. Je rappelle que les enlèvements étaient assez fréquents et que les femmes et les enfants notamment pouvaient disparaître sans qu'on les retrouve jamais. Elle a d'ailleurs dit que le fantastique et l'horreur lui permettaient de mettre des mots sur la réalité des expériences argentines. Je vous conseille donc ardemment de vous plonger dans ces nouvelles dont un recueil va sortir aux éditions du Sous-Sol en octobre, j'ai absolument hâte. Et j'ai hâte aussi qu'elle nous fasse un coming out, je sais pas lequel, mais il y a quelque chose. Parce que,
choisis, il y a le choix.
Je veux bien qu'elle soit une super alliée de la cause, mais... caser une à deux gouines dans la moitié de ses nouvelles, passer son adolescence avec des punks argentins et être passionné de magie noire. Je veux pas diagnostiquer qui que ce soit, mais j'ai assez envie de faire une Karine de Marchand. Conclusion. Lisez Mariana Enriquez, promis, ça fait moins peur que les élections qui arrivent en 2027.
Merci, merci beaucoup Zoé pour cette petite évocation du travail de Mariana Enriquez. On a 50 secondes pour nos petites recommandations de fin. Vini, je te laisse la parole.
Rendez-vous le 2 octobre. Rendez-vous le 2 novembre à la Gaîté Lyrique pour The Halloween Party Ball 4 by Vinnie Revlon and Jack Misery Gorgeous Gucci.
Wow, Amandine.
Et rendez-vous aussi le 30 juillet sur la plateforme de France Télé Slash. Et moi, je recommande Diamant Brut que j'ai vu il y a deux jours et que j'ai adoré. Voilà.
Et puis tout l'été, on peut aussi réécouter toutes nos émissions sur radiocampusparis.org et sur toutes les applications de podcast. Il faut que je meuble encore 12 secondes, aidez-moi. Ah, Yélène, tu as quelque chose à recommander?
Oui, moi j'ai une reco d'un ouvrage que j'ai commencé. Le mouvement féministe est un complot lesbien qui est paru récemment. C'est
bien
super.
Avec un grand classique, Got to be Real de Cherry Lynn, un tube sorti en 78 qui apparaît sur la bande originale de Paris is Burning et que le magazine Billboard vient de classer dans son top 100 des meilleurs hymnes queer de tous les temps et qu'on utilise aussi sur quelle catégorie, Vinnie?
La première catégorie de la ballroom scene qui est face.
Tout simplement, on était ravis de vous recevoir, Vinnie Revlon et Amandine Gay, merci infiniment.
Merci à vous.
Ballroom. Incroyable, as a house.
As a house.
Ballroom, c'est à voir à partir du 30 juillet sur France TV Slash. Et vous l'aurez compris, c'est chaudement recommandé par toute l'équipe du lobby. Pardon, que je remercie au micro ce soir. Il y avait Maëlle, Ayelen, Alexis et Zoé. Merci à vous quatre. Et à la réalisation, c'était bien sûr l'indispensable Suzanne Cinca. Merci Suzanne. Petit applaudissement pour Suzanne. Le lobby saison 6. Continuez à applaudir pendant que je dis ça, c'est super. Le lobby saison 6, c'est fini. On se retrouve dès le mois de septembre. À très bientôt. Belle soirée, bel été.
Bisous.